religions du monde. Geneviève Delrue.
Bonjour à tous. Du 25 au 28 avril prochain, le patriarche maronite, le cardinal libanais Béchara Boutros-Rahi, effectuera une visite officielle en France, au cours de laquelle il rencontrera à l'Élysée le président François Hollande et inaugurera à Meudon le siège de l'éparchie maronite de France. Un bâtiment acheté par le patriarcat pour permettre à la communauté chrétienne libanaise de France de ne pas se couper de ses racines. Alors, sur la pelouse de cette maison accueillante, nous avons demandé à Monseigneur Maroun Nasser Gemayel, évêque de l'éparchie maronite de France, quelle signification donner à l'inauguration de ce diocèse pour les chrétiens libanais à un moment où l'Irak et la Syrie se vident de leur communauté chrétienne.
Derrière tout ça, il y a la situation dramatique par laquelle passent les chrétiens d'Orient en général, avec tous les autres peuples qui sont vraiment également dans la peine. Mais en ce qui nous concerne, nous assistons actuellement à une situation très bizarre. On se rue contre les originaux de ce coin du monde et puis on est en train soit de les persécuter, soit de les éradiquer, soit de déplacer ici ou là, ou bien à se ruer contre leur patrimoine écrit, à tout ce qu'ils ont comme église. Mais pourquoi on ne mérite pas ce sort? Qu'est-ce qu'on a fait pour que nous ayons ce sort-là? On a été tout le temps au service des uns et des autres, au service pris dans le bon sens. Pas des serviteurs, pas des esclaves, non. Mais on a été quand même les serviteurs de la culture, du bien-être, de la médecine, du vivre ensemble, tout ce qui est positif dans cette société moyen-orientale. Alors le patriarche vient actuellement, certainement, pour apporter une certaine solution, pour aider à la solution du point de vue Église de France et également du point de vue gouvernement français.
Éparchie, ça veut donc dire diocèse ?
C'est la même chose, oui, c'est le mot grec, éparcheia.
Donc un diocèse pour les maronites qui ont quitté le Liban. Est-ce qu'il faut voir précisément cette création de cette éparchie, donc décidée par le Vatican, en regard de la situation au Proche-Orient, sachant que de plus en plus, effectivement, de citoyens du Proche-Orient quittent leur pays?
D'abord, on n'a pas quitté notre pays. On a été acculé à quitter notre pays. Chacun de nous a une histoire différente de l'autre. Qu'il soit venu pour étudier ou bien pour chercher du travail ou pour chercher la paix et la sécurité, chacun a sa petite histoire. Maintenant, l'Église, il y va de sa mission de s'occuper de ses fidèles là où ils sont. Et c'est le cas en ce qui nous concerne.
La création d'une éparchie, est-ce que finalement, d'une certaine façon, ça n'avalise pas une situation, à savoir que les chrétiens d'Orient qui ont quitté leur pays, les Libanais notamment, ne reviendront plus?
Je ne pense pas. Du moment que nous sommes à 4 heures d'avion du Liban, ce n'est pas excessif. Et du moment qu'il y a toujours des gens qui investissent là-bas, ils ont de la parenté, ce n'est pas si grave que ça, ce n'est pas l'Australie, ce ne sont pas les États-Unis. Nous sommes vraiment à une proximité du Moyen-Orient, sinon on a les mêmes valeurs et la même cause, pas seulement, c'est le bassin méditerranéen encore. Voilà, c'est toute la culture là qui nous unit. Qu'on soit sur la rive droite ou gauche, c'est la même chose.
Les défis, Monseigneur Gemayel, que vous avez à relever sont nombreux. Il y a notamment celui de la culture et puis le défi, bien sûr, religieux. Qu'est-ce qui est le plus difficile à relever? Il y a beaucoup de mariages mixtes aujourd'hui.
Certainement, il y a les mariages mixtes et on n'est pas encore bien équipé pour garder cette appartenance à notre culture orientale, moyen-orientale, c'est-à-dire notre appartenance à la langue arabe, à la culture syriaque, tout ce que vous voulez. Alors le but de cette éparchie, de créer des écoles, si jamais on a la possibilité, mais tout ça relève du côté économique.
Par cette éparchie, vous entrez de plein pied dans l'Église de France, même s'il y a déjà 3 évêques orientaux, maronites, déjà ukrainiens et arméniens. Là, vous entrez de plein pied dans l'Église de France.
Bien sûr, et on appartient à la même famille catholique, disons international, pour dire les choses universelles. Mais on vient en France et un peu partout dans le monde avec un autre parfum. C'est l'église antiochienne, c'est ça, une autre liturgie, une autre manière de célébrer, de vivre, une manière chaleureuse. On peut apporter beaucoup de choses à cette église de France.
Alors justement, concernant le dialogue avec l'islam, vous avez évidemment une expertise de terrain, j'allais dire. Est-ce que vous pouvez jouer un rôle de pont en France, en Europe ?
Certainement. Et ça, ça fait partie de notre mission, sinon de notre appartenance à l'Évangile. Nous avons d'abord l'intention, mais également tout ce poids culturel ancien. Ça fait plus de 1400 ans qu'on vit avec l'islam. Et on peut apporter à la France, auprès de l'islam français et auprès de l'Église, les chrétiens, mais surtout également auprès de la laïcité française. Pas seulement de la dimension culturelle. Alors, si la France se dit actuellement laïque, mais nous aussi, nous avons une certaine expérience avec cette laïcité, tout en respectant et le droit de s'exprimer et le droit de religion, tout ce que vous voulez, et ça marche bien. Alors ça pourrait être certainement un exemple positif.
Je reviens à la visite prochaine de sa béatitude, le cardinal Rail. Il va y avoir une rencontre à l'Élysée avec le président François Hollande. Est-ce que vous savez déjà quelle sera la teneur des propos du cardinal qui, on le sait, avait effectivement soulevé, sinon un tollé, en tout cas des réactions lors d'une précédente visite en France, quand il avait parlé d'un dialogue qu'il fallait avec le président Assad?
Là, honnêtement, je n'ai pas vent de ce qui va être dit, mais seulement j'ai dit tout à l'heure que la situation actuelle s'impose. Il y a des chrétiens qui quittent le pays, des chrétiens qui sont persécutés ici ou là, et il y a quelqu'un qui vient quand même dire à haute voix ce qu'il ne faut pas faire. Détruire le vivre ensemble, détruire toute une composante de ces chrétiens d'Orient. Alors, attention, c'est quelque chose de très grave au niveau culturel, au niveau des droits de l'homme. Si jamais vous croyez à la fraternité, à tout ce que vous voulez comme droits de l'homme, nous faisons partie de ces hommes-là et nous comptons garder nos droits.
Suivons avec les chrétiens d'Orient. Cette semaine à Paris, le prêtre dominicain irakien, le père Najib Mikael, qui a fondé le CNMO, le Centre numérique des manuscrits orientaux, une des mémoires de l'Orient, notamment chrétien, est venu témoigner à l'Institut du monde arabe de la richesse du patrimoine chrétien oriental. Cet intellectuel de 60 ans, diplômé à l'origine de l'Institut du pétrole de Bagdad, est entré en 1980 dans l'ordre des prêcheurs en France, où il a mené des études de philosophie et de théologie à Strasbourg. Le père Najib a été supérieur des Dominicains à Mossoul, puis il est parti à Karakoche, l'autre ville chrétienne de la plaine de Ninive, où il a fait venir depuis quelques années des manuscrits qu'il sentait menacés par l'avance djihadiste. Et en août dernier, il va sauver des milliers de manuscrits mis à l'abri aujourd'hui à Erbil, au Kurdistan irakien voisin, où il accompagne depuis des dizaines de milliers de réfugiés qui ont fui les combattants de Daesh. Après le chaos de l'arrivée, la vie s'organise peu à peu, grâce notamment aux aides extérieures, comme celle de l'Œuvre d'Orient et de la Fondation Raoul Faudreau. Des projets repartent et prochainement une radio et une école seront inaugurées. Le père Najib est venu parler à Lima de la richesse du patrimoine des chrétiens d'Orient, qui est la cible aujourd'hui des combattants de Daesh qui veulent détruire la mémoire des cultures de la région. Le père Najib revient sur cet été 2014 où des centaines de yézidis seront massacrés et des milliers de chrétiens contraints à l'exode. Et sur cette nuit où ils s'enfuient vers Erbil avec des chrétiens et des manuscrits.
C'était la nuit du 6 à 7 août dernier. Le 6, c'était le jour de la transfiguration. Comme on voit, c'est la fête de la lumière où Jésus se montre justement. Le jour même, après minuit, Daesh rentre chez nous. Et heureusement, on s'est rendu compte, quelques heures avant, que Daesh est à notre porte, de la ville de Karakoche et des autres villes de la plaine de Ninive. Et nous aussi, avec beaucoup de gens, on a pris la fuite. Et à peine 2 heures après notre départ, Daesh entre donc dans le village de Karakoche, où il y avait 50 000 habitants. Il a dévasté tout. Ceux qui sont restés sur place, on n'a plus de nouvelles d'eux. Et donc nous-mêmes, comme frères dominicains, on avait amené avec nous les archives, les manuscrits, tout ce qu'on avait de précieux dans notre église, parce que les Dominicains sont plantés à Moussoul depuis 1750. Et il y a tout un trésor à travers cette soirée pour nous. Donc effectivement, on a commencé à les amener à Karakoch depuis 2007, où il y avait encore des persécutions contre nous avant Daesh. Et voilà, on a décidé d'amener tout. Quelques semaines à peine avant l'entrée de Daesh, j'ai rempli tout un grand camion, des manuscrits, des archives et des objets précieux. On les a amenés au Kurdistan pour les mettre dans un lieu sûr. Nos archives et les manuscrits, ce sont des véritables nomades. Et aujourd'hui, je les appelle comme mes enfants. Et on ne peut pas les laisser. Et ce qui nous est arrivé justement, à la dernière minute, on a sauvé le reste de tout cela. Plusieurs milliers de manuscrits, on a réussi à les mettre dans les voitures, ce qui restait bien sûr de la grande collection. Et on a rempli les voitures, en plus des manuscrits, les archives, des gens qui couraient à pied pour se sauver. Donc on a sauvé vraiment les êtres vivants et les peaux mortes en même temps. Parce qu'un peuple qui n'a pas ce patrimoine, c'est un peuple perdu. Aujourd'hui, nous sommes à Inkawa, à Erbil, où plus que 120 000 chrétiens sont dispersés à travers le Kurdistan en entier. Et nous avons lancé plusieurs projets au Kurdistan aujourd'hui pour accueillir ces familles déplacées.
Ces archives, c'est la mémoire chrétienne de l'Irak ?
Absolument. Pas seulement la mémoire des chrétiens, mais on a sauvé, grâce à notre centre, la numérisation des manuscrits orientaux que j'ai lancé en 1990. Et nous avons préservé et numérisé plus que 8000 manuscrits. Ils ne sont pas tous chrétiens. Il y a des manuscrits sur les Yézidis, il y a en arabe, il y a en araméen, il y a sur le turkman, il y a en ottoman, donc en turc. Il y a plusieurs langues et plusieurs sujets en même temps qu'on a pu les sauver à la fois.
Ce ne sont pas que des sujets religieux.
Absolument pas, parce qu'il y a de l'histoire, surtout il y a de la Bible, il y a la géographie, il y a aussi donc la vie des saints, il y a la spiritualité, mais il y a beaucoup de livres également, des manuscrits sur la médecine, sur l'astrologie, l'astronomie. Il y a sur comment on travaillait avec les autres, comment on voyait un petit peu la guerre. Donc il y a des histoires très intéressantes à travers ces manuscrits. Et bien sûr, ce sont des sujets à étudier et à publier dans l'avenir. On a sauvé donc ce manuscrit à deux niveaux, physiquement, et aussi en le numérisant pour qu'il soit à la disposition des chercheurs.
Que faites-vous exactement pour les réfugiés à Erbil, au Kurdistan irakien ?
Plusieurs milliers de chrétiens, ils étaient accueillis dans les églises, dans les salles et dans les jardins, parce que c'était l'été à l'époque. Et beaucoup aussi dormaient sur le trottoir. Donc on a demandé des amis, des organismes, des ONG, comme Raoul Folro et d'autres, qui nous ont aidés à construire de l'habitat ou des chambres qui soient dignes pour ces familles. Et donc on a logé dans un centre que j'ai appelé la vigne, ça veut dire Al-Karma. Al-Karma, c'est Jésus. Et nous sommes les sarments. Donc nous sommes reliés avec le Christ pour être plus forts. Et là, il y a à peu près 80 familles qui logent à l'intérieur. Et là aussi, j'ai lancé deux studios que les pères bénédictins américains nous ont envoyés. Et on a redémarré la numérisation de nouveau parce qu'on a beaucoup de collections non achevées encore. Et donc j'ai mis ces studios à l'intérieur de ce centre des réfugiés. Et ce sont des jeunes garçons, des jeunes filles qui sont à l'œuvre pour numériser et pour sauvegarder leur propre mémoire. Tandis que l'autre centre, je l'ai appelé Al-Amal, c'est-à-dire l'espoir, et dans lequel on a abrité 165 familles, notamment des yézidis également, qui logent dans le même bâtiment avec les chrétiens. Et on a fait exprès pour qu'on puisse partager notre souffrance ensemble et partager notre espoir.
Est-ce que vous espérez, vous, frère, revenir à Mossoul, berceau quand même des Dominicains d'Irak ?
Je suis donc à Erbil, je vis avec les réfugiés. On partage avec eux leur vie, mais aussi au plan psychologique, ils ont un besoin énorme. Vous savez, il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes sont traumatisés. Elle vit encore la peur. Il ne dort pas la nuit, quelquefois. Donc, aujourd'hui, à mon avis, c'est important de donner cet espoir. Et la majeure partie de ces chrétiens veulent rester sur place et un jour, peut-être, revenir dans leur propre village.
le père Najib Michael. À noter le livre du patriarche des Chaldéens, Monseigneur Louis Sacco. Le titre se suffit à lui-même, « Ne nous oubliez pas », un SOS publié chez Bayard.
Lieber Markus Vetter, ich schreibe Ihnen auf Deutsch, weil ich in Baden-Baden geboren bin. Mein Name ist Yael Armani.
Cher Markus Vetter, je vous écris en allemand car je suis née à Baden-Baden. Mon nom est Yael Armani. Je suis française et je vis en Israël. Mon mari, Dov Tchernobroda, a été tué en mars 2002 par un suicidaire de Jénine. J'ai entendu que vous avez eu le courage d'aller à Jénine. Je ne connais personne qui soit allé là-bas et j'aimerais vous parler de cette ville. Toute sa vie, mon mari s'est battu pour un dialogue entre les deux côtés. Je vous ai écrit son histoire.
Nous venons d'entendre un extrait du film « Après le silence » du cinéaste allemand Markus Vetter. Le 31 mars 2002, dans un restaurant d'Haïfa au nord d'Israël, un jeune Palestinien de Jenin se fait exploser. Parmi les nombreuses victimes, un militant pour la paix, l'architecte Dov Tchernobroda. Sa femme, Yael Armanet, est franco-israélienne. Elle vit en Israël depuis les années 70. Elle dirige une bibliothèque de recherche au Technion, l'Institut israélien de technologie d'Haïfa. Comme son mari, elle a toujours milité pour le dialogue entre Israéliens et Palestiniens. 8 ans après, en 2010, malgré un deuil très difficile, elle décide pour le film documentaire « Après le silence », réalisé par le cinéaste allemand Markus Vetter, de rencontrer à Jenin la famille du jeune homme palestinien. Dans son livre « Haïfa, Jenin après le silence » aux éditions Le Passeur, Yael Armanet donne un éclairage sur sa démarche.
Je n'ai jamais pensé écrire un livre, mais lorsque j'ai vécu l'expérience de la rencontre avec la famille palestinienne à Jenin, rencontrer les parents du terroriste qui s'est fait exploser donc dans ce restaurant où, à part mon mari, 15 autres personnes sont décédées et plus d'une cinquantaine de personnes ont été blessées. J'ai vécu vraiment un moment important dans ma reconstruction personnelle. Et le fait d'avoir écrit le livre a été pour moi l'occasion de coucher sur le papier, si on peut dire, toute une période de ma vie qui a été importante, qui est cette période où j'ai connu mon mari d'abord, où j'ai pu donc raconter sa vie, son parcours. Il était né en 1935, donc avant la création de l'État d'Israël. Il fait partie d'une génération qui a construit le pays. Il fait partie vraiment des racines que j'ai intégrées en Israël, puisque moi je ne suis qu'une habitante, une israélienne, mais je n'ai pas de racines. J'ai de l'ancienneté, mais je n'ai pas de racines. Donc cette écriture m'a permis de tourner la page.
Vous êtes tombée amoureuse d'un homme qui avait un charisme hors du commun, qui avait une histoire très forte. Cet homme, ça a été l'aventure de votre vie.
Oui, et vous savez, je vous dis une chose. Le bonheur de vivre, c'est le bonheur d'aimer d'abord. Et c'est le bonheur de la rencontre. Et je le dis dans mon livre, on peut passer à côté de beaucoup de gens dans la vie qui nous intéressent, qui nous passionnent, qui nous interpellent, et on peut ne pas les revoir. Ou on peut décider, tiens, j'aimerais rencontrer cette personne davantage. J'aimerais vivre avec elle un parcours. Et c'est ce qui s'est passé avec Dov. Je l'ai rencontré dans un mouvement politique en 1988, qui était un mouvement de gauche. Donc c'était ma PAM, ensuite on était à Meretz, ensuite je suis allée au Parti Travailliste aux dernières élections. Et c'était un homme engagé. C'était la première chose qui m'attirait en lui, c'était le fait que c'était un homme qui avait vraiment toujours essayé de faire quelque chose pour faire avancer le processus de paix, faire se rencontrer des gens qui ne se parlent jamais, qui sont ennemis. Il disait toujours, on est ennemis mais on se parle, on doit se parler. Donc il y avait d'abord cette question de l'engagement.
Comment expliquez-vous qu'il fut à ce point engagé ?
Je pense que c'est lié à sa personnalité, aux valeurs dans lesquelles il a grandi. Je pense que c'est aussi très lié au fait que toute sa famille a disparu dans la Shoah. Il y avait en lui toujours ce sentiment, je suis un rescapé de la Shoah, même s'il était né en 35 à Tel Aviv. Mais il est né 2 mois après que ses parents ont fui la Pologne à la dernière minute et toute la famille a été déportée. Donc il y avait chez lui ce sentiment toujours d'une urgence. Et il voulait mettre sa petite pierre dans la construction du mur de la paix. Et il l'a fait.
Yael Armanet, que l'on retrouve après le flash, restez à l'écoute de RFI.